Bonjour à tous, si loin, si proche. Aujourd'hui, deux invités. Brigitte, qui revient de Palestine, elle a participé à la 161e mission CCIPP, c'est-à-dire les campagnes civiles internationales pour la protection du peuple palestinien. Et José Luis Moragues, que les éditeurs connaissent. Alors, c'est vrai que... En dépit des espoirs qu'a fait naître l'élection du président Obama, en dépit des efforts de son envoyé spécial George Mitchell, qui multiplie les allers-retours entre Netanyahou et le Premier ministre palestinien, la situation demeure désastreuse. Le blocus de Gaza demeure, la construction du mur se poursuit, la colonisation d'Israël se poursuit aussi de façon dramatique. Des restrictions de l'accès à l'eau sont aussi... Il n'y a aucune entrave. Et aujourd'hui, le Premier ministre Salam Fayyad déclarait que la lutte, plus que la lutte armée, la résistance populaire pacifique est le moyen essentiel de lutte contre l'occupation. Et Brigitte, tu as participé lors de ton séjour à la conférence, une conférence qui s'est tenue à Bilin.
À la conférence pour la paix de Bilin, oui. Et effectivement, le débat politique a vraiment tourné autour de cette question. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a 45 villages à peu près dans lesquels il y a des comités de résistance populaire qui mènent une lutte donc pacifiste. Il y a une vingtaine de villages qui quotidiennement, tous les vendredis, manifestent contre le mur et contre l'occupation. Et donc la question qui était posée aux politiques, c'est est-ce que les comités de résistance populaire et leur coordination peut être le terreau d'une future union nationale du peuple palestinien, évidemment avec les internationaux, etc. Mais en tout cas, comme réunification de ce qui serait une unité nationale palestinienne. Oui, c'était la question qui était posée aux politiques, oui.
Et quelle réponse semble...
Eh bien, c'est vrai que quand on est ici en France, on a des images des partis politiques qui sont absolument pas... Enfin, les médias véhiculent des choses totalement fausses. Et qu'effectivement, là-bas, moi, j'ai entendu les gens du Hamas, donc du Fatah, d'une organisation appartenant au FPLP, dire des choses finalement pas si loin les unes des autres, pas si opposées. Il y a effectivement la question des prisonniers politiques des deux côtés. Enfin bon, ça c'est une question à traiter, mais il y a quand même un certain nombre de points sur lesquels il semblerait qu'il y ait... Enfin, en tout cas, ils disent la même chose. Alors, la même chose, c'est le retour des Palestiniens, les frontières de 67, la question de Jérusalem et la libération des prisonniers politiques. Mais ça, c'est... Ils le disent tous, quoi. Donc, effectivement, après, c'était des débats plus... En plus, c'est traduit, donc bon, plus subtil sur est-ce que la résistance populaire, c'est la seule résistance? Est-ce que ça n'est pas une des formes des résistances? Est-ce qu'on peut en avoir le monopole? Enfin bon, mais en tout cas, quand on les écoute, effectivement, on avait le sentiment que... Enfin, je crois qu'il y a des articles du Monde qui parlent de troisième intifada comme intifada blanche, qui serait effectivement... ce mouvement de résistance populaire qui est très très présent et très important, effectivement. Quoi.
Et auprès de la population israélienne, auprès des organisations, est-ce que cette intifada blanche rencontre des appuis, des soutiens? Est-ce qu'elle bénéficie d'un...
Alors après, moi, je ne peux pas parler du nombre, de proportion de choses comme ça, mais nous, on a fait des choses avec des associations israéliennes qui se battent tous les jours aux côtés des Palestiniens. Au moins trois, donc, puisqu'il y avait la Coalition des Femmes pour la Paix, qu'on a rencontrée à Tel Aviv et qui fait un boulot extraordinaire, je crois, auprès des femmes, notamment des femmes russes, dans les colonies, elles font énormément de boulot. On a fait une action avec des militants de Taïouch, qui est une association Taïouche, ça veut dire vivre ensemble, qui essaye de permettre à des bergers de pouvoir continuer à faire paître les bêtes dans les zones qui sont leurs zones et qui, à chaque fois, sont ennuyées, enfin, sont repoussées par l'armée. Et puis, on a eu l'occasion de rencontrer les anarchistes contre le mur, qui sont donc des jeunes militants israéliens, absolument extraordinaires et vraiment très, très engagés, très, très là, très présents. Enfin, ils viennent à chaque jara toutes les semaines. Ils sont avec les gens, ils sont là tout le temps, quoi. Effectivement, ils sont peut-être plus dans les actions, on va dire, que dans les... Par exemple, ils n'étaient pas à la conférence, je crois, de Bilin. Mais bon, à des niveaux différents, effectivement, ça fait quand même beaucoup de bien. Et les Israéliens qui sont aux côtés des Palestiniens sont obligés d'être très clairs et d'être... Enfin, c'est nécessaire. Et ils sont aussi très en colère contre leur pays. Enfin, je me souviens de... Ce militant de Taïouche, Yehuda, qui s'est assis sur le sol en pleine nature et qui a dit « Aujourd'hui, on va se faire arrêter. J'ai pas l'air comme ça, mais tu peux pas savoir comme je suis en colère contre mon propre pays. » quoi. Parce que voilà. Donc je crois que ça, c'est très important aussi. Oui. Puis après, il y a les internationaux aussi. Aux côtés
oui, les missions, voilà. Les internationaux.
De toutes sortes. Il y a plein d'associations différentes. Il y a plein d'internationaux de tous les pays qui sont effectivement très présents. Et très... Voilà.
Et une question peut-être qui va s'adresser à José. En France, en Europe et en France, il y a aussi de nombreuses associations juives qui participent de ce juste combat du peuple palestinien. Peux-tu rappeler...
Nombreuses, ce serait beaucoup dire, mais il y en a. La question, c'est quel type de soutien. Enfin, est-ce que ce sont des gens qui sont sur les positions des travaillistes israéliens, c'est-à-dire qui sont sur les positions dites contre les colonies, mais qui pour autant ont approuvé la guerre contre Gaza. C'est le cas du Parti travailliste ou de certaines associations, notamment locales ici. Comme la JHL, l'Association pour un judaïsme laïque et démocratique, et humaniste, ou bien ce sont effectivement des associations qui se battent contre l'État d'Israël et sa nature d'apartheid, etc. Donc là, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Je ne connais que l'Union juive française pour la paix.
Oui, je pensais...
Et l'IJAN, qui est une organisation internationale des juifs antisionistes. Donc ce n'est pas si nombreux que ça, non. Par contre, l'UJFP, ils sont assez nombreux, ils sont très présents, très actifs et extrêmement clairs dans leur position. Et nous avons des liens extrêmement serrés avec eux.
Et ces organisations sont pour, envisage deux États ou la cohabitation ?
La question des deux États a beaucoup évolué. C'est-à-dire que pendant longtemps, durant la période de Oslo, de 93 jusqu'à il y a quelques années, on était tous plongés dans cette période-là et dans les accords d'Oslo. Mais leur échec, patent, évident, ne serait-ce que l'augmentation de la colonisation pendant les accords d'Oslo, la guerre contre Gaza en 2008-2009 qui a fait 1450 morts côté palestinien pour moins d'une quinzaine israéliens, et parmi les 15, je crois qu'il y en a 6 ou 7 qui ont été tués par leurs propres balles, donc des erreurs de tir. Donc après tout ça, on ne peut que constater l'échec du processus de paix et l'échec d'Oslo. Oslo, effectivement, préconisait des accords comme ça, disait bon, on va s'entendre, frontière 67, Jérusalem est comme capitale, le retour des réfugiés, bon, ça on verra le principe. Enfin bon, tout avait été. Les revendications initiales ont été toutes galvaudées, toutes émoussées, si bien que finalement c'était plus qu'un échange de terres, de territoires. Et donc je crois que l'échec d'Oslo et surtout l'apparition de l'appel du mouvement BDS palestinien a remis les choses sur le tapis. Et donc aujourd'hui, la question n'est plus, selon même les Palestiniens, de décider si sur les solutions elles-mêmes, c'est-à-dire s'il faut un État ou deux États, on verra plus tard. Et ils disent si ce qu'il nous faut, c'est qu'aujourd'hui, les droits fondamentaux des Palestiniens soient reconnus, soient appliqués. Ils le disent très très clairement, il y a trois revendications principales qui concernent les Palestiniens sous occupation, c'est-à-dire ceux de Cisjordanie et Gaza, avec l'abolition du mur et de l'occupation et du retrait des colonies, l'apartheid que subissent l'ensemble des Palestiniens sur la Cisjordanie, Gaza. Gaza est enfermé, hein, c'est un État complètement, une partie de la Palestine complètement isolée du reste, donc sous apartheid complètement, mais également la discrimination qui s'exerce au sein même de l'État d'Israël à l'encontre des Israéliens, des Palestiniens d'Israël. Et enfin, le retour de réfugiés sans lesquels il ne pourrait y avoir vraiment de possibilité d'avenir réel et de justice. Voilà. Donc les Palestiniens nous disent, si un État nous permet de satisfaire ces trois revendications, c'est très bien. Si deux États nous permettent, c'est très bien. Et ils vont même, en plaisantant, à dire, si trois États nous permettent ça, ben c'est très bien, nous prenons trois États. Pour dire, aujourd'hui, à l'ordre du jour, la question des deux États ou d'un État n'est pas à l'ordre du jour. C'est une question qui divise les Palestiniens, qui pourrait diviser le mouvement de solidarité. Elle n'est pas à l'ordre du jour. Donc, aujourd'hui, la question, c'est des actions contre Israël, et notamment par le biais de la campagne BDS, boycott, désinvestissement, sanctions. Donc, ce n'est pas une question qui est à l'ordre du jour, de l'avis même d'un grand nombre de Palestiniens. Par contre, il est vrai que les Israéliens sont extrêmement attachés aujourd'hui à la création d'un État palestinien, disent-ils, même Salam Fayyad et l'autorité palestinienne. Mais il faut voir quel type d'État palestinien, hein. Oui. Donc sur quelle frontière, de quelle nature. Voilà. Et surtout, les Israéliens sont très attachés à la création d'un État palestinien parce qu'ils espèrent, en même temps, instaurer et faire adopter par le monde entier l'idée qu'Israël sera et... ce qu'il est aujourd'hui, un État juif et démocratique. C'est-à-dire un État juif, un État qui sera ethniquement pur, où seuls les Juifs pourront venir ou pourront vivre là et auront les droits, bien sûr, sera démocratique entre Juifs. Mais ça, c'est un gros problème, parce que c'est sur la nature même de l'État d'Israël.
Ben revenons à la campagne boycott, désinvestissement et sanctions, parce que tu l'as évoqué, elle est d'actualité. Peux-tu repréciser pour les auditeurs
c'est un appel des Palestiniens qui a été lancé en juillet 2005, qui a mis très longtemps à démarrer, surtout en France, parce qu'elle a démarré plus vite en Angleterre, en Italie et en Belgique, en Suède aussi, et en Hollande. Et nous sommes parmi les derniers, peut-être l'Espagne est encore plus à la traîne que nous, mais qui, après la guerre de Gaza, a pris toute sa dimension, son ampleur ici. C'est-à-dire que les Palestiniens, dans l'appel de 2005, nous disent, écoutez, malgré toutes les résolutions de l'ONU, rien n'est appliqué, les États sont complices de ce qui se passe, les États-Unis bien évidemment, mais l'Europe également, qui ne fait que étendre les échanges. Israël vient de rentrer dans l'OCDE. Donc voilà, encore une courbette qui est faite devant Israël et un cautionnement de tout ce qu'il fait. Donc dans ces conditions, puisque les États refusent d'appliquer le droit et de reconnaître la gravité des sanctions d'Israël, des actes d'Israël, qu'ils refusent de sanctionner Israël, malgré le rapport Goldstone de l'ONU qui a qualifié l'attitude d'Israël pendant la guerre contre Gaza de crime de guerre, voire même de crime contre l'humanité, eh bien, puisqu'ils ne le font pas, il faut que les citoyens du monde entier le fassent et qu'ils se lancent dans la campagne de boycott des investissements en sanctions, boycott de tous les produits israéliens, également boycott des institutions israéliennes au plan culturel et universitaire, des investissements, c'est-à-dire que pas un seul centime d'argent ne doit profiter à Israël, ne doit être investi dans Israël, ni profiter à Israël. C'est une des raisons d'ailleurs qui font que dans la région, la coalition contre Agresco s'oppose à la venue d'Agresco dans le port de Sète, puisque la région va investir au moins 45 millions pour la construction du terminal fruitier. Agresco, l'entreprise d'État israélienne qui exporte les fruits et légumes, va utiliser sans verser un seul centime ce terminal fruitier qui aura été payé par nos impôts. Et ça, nous ne le voulons pas. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on dit désinvestissement, c'est-à-dire on refuse d'investir au profit d'Israël. Et enfin, sanctions, c'est-à-dire qu'il faut qu'Israël soit sanctionné pour ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire.
Donc la situation par rapport à la région, suite à la réélection de Georges Frêche, la position de la région demeure ce qu'elle était.
Bien sûr, même pire, puisque auparavant nous avions deux ou trois alliés au sein du conseil régional, avec il y avait deux ou trois représentants des Verts, je crois, et un communiste, parce que les autres, on ne peut pas dire que ce soit des alliés, c'était déjà des gens qui collaboraient avec Frêche. Aujourd'hui, que ce soit le Front National, l'UMP ou la droite que Frêche représente également, il n'y a pas un seul élu qui se soit manifesté contre le projet Agresco. Donc aujourd'hui, tout le conseil régional est en bloc contre Agresco.
Mais
Pour Agrexco. Pour Agrexco,
pardon. Est un bloc pour Agrexco et nous l'avons contre nous, voilà. Donc, opposé à... Donc la situation aujourd'hui, elle est importante. On a fait des mobilisations extraordinaires, puisque la dernière, celle qui datait du 6 mars, il y avait à peu près 1300 personnes qui ont... Une marche qui a rassemblé un millier de personnes, au moins, entre Montpellier et Sète, ce qui est quand même extraordinaire, des gens venus de toute la France, et beaucoup de gens de la région qui ensuite... étaient là pendant le meeting l'après-midi à Sète et ont défilé après le meeting. Il y avait 1300 personnes dans le port de Sète qui ont défilé pour refuser l'avenue Agrexco. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, notre travail consiste à convaincre l'ensemble de la région, de la population, des élus politiques, des gens qui ont dénoncé l'avenue Agrexco, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a de nombreux partis politiques, à gauche maintenant, qui est composé du parti de gauche, du parti communiste, des alternatifs, de la FASE et du NPA, bien sûr, ont pris position clairement contre l'avenue Agrexco, mais également les Verts et Europe Écologie sont parfaitement prononcés et ils sont dans la coalition contre Agrexco, mais également... la liste Hélène Mandroux, puisque dans la liste Hélène Mandroux, suite à aux questions de la coalition, eh bien, il a été répondu que, compte tenu des violations du droit par Israël, il fallait différer l'installation d'Agrexco à 7 jusqu'à ce qu'Israël respecte le droit. Donc aujourd'hui, il y a pratiquement l'écrasante partie, majorité des partis de gauche, il y a tous les partis de gauche, si on peut dire, puisque le PS, le PC, etc., voilà, sont opposés à l'avenue Agrexco. Il nous faut maintenant convaincre ces partis-là et la population que la question d'Agrexco, ça n'est pas seulement l'affaire de la Palestine, que ça n'est pas seulement une affaire de solidarité avec la Palestine, mais que c'est surtout et autant, tout autant, puisque la question de la Palestine, c'est la question du droit, mais c'est tout autant la question du droit à vivre et du droit à se développer pour les paysans de la région et que la question d'Agrexco, c'est la question du développement juste, durable, solidaire de notre région. Voilà. Et donc ça, il faut que ces partis comprennent que ce n'est pas une affaire simplement d'échéance électorale, mais qu'il y a des luttes, que nous, on a engagé une lutte de masse dans le cadre de la coalition, dont ils sont membres, et qu'on ne va pas attendre la prochaine échéance pour dire, voilà, on aura les élus qui vont prendre position. Non, non, il faut qu'aujourd'hui, on développe les actions pour convaincre la population de se mobiliser et empêcher l'avenue Agrexco, parce qu'il s'agit... De sauver la réorganisation de la région. Agrexco va exporter 200 000 tonnes de fruits et légumes par an au début et 500 000 tonnes à terme qui va rentrer dans toute la région. Alors ce sont bien sûr des produits aubergines, poivrons, tomates, carottes, pommes de terre, des choses qu'on cultive ici bien sûr. Et comme Agrexco en Israël vole les terres en Palestine, vole l'eau en Palestine et cultive avec une main-d'œuvre de Palestiniens à qui il a volé les terres et qui sont exploités férocement, bien sûr, ils peuvent pratiquer des prix de dumping. Ouais. C'est une concurrence tout à fait déloyale. Donc, bien sûr, les paysans locaux et le développement de l'agriculture locale se trouvent gravement menacés, ce qui explique la mobilisation extraordinaire de la Confédération paysanne dans le sein de la coalition contre Agrexco, qui sont, c'est une des organisations les plus mobilisées et constructives dans le démontage et dans l'explication sur le danger que ça représente, mais également dans les propositions qu'ils font pour la réinstallation de paysans, la localisation de l'agriculture, la relocalisation, contre les industries agroalimentaires, contre l'agriculture industrielle et contre les grandes firmes de l'agroalimentaire et de la grande distribution. Voilà, c'est tout ça la question d'Agrexco. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut que les gens comprennent qu'il ne s'agit pas simplement d'un problème palestinien, mais c'est bien un problème qui concerne l'ensemble de notre région et des gens, des habitants de cette région.
Très bien, José.
Juste dire qu'effectivement, Agrexco est la figure d'une lutte exemplaire et d'avenir pour tout le monde, parce qu'elle lie à la fois la question du racisme, du droit des travailleurs, de l'exploitation, de l'écologie, du vivre différemment. Enfin, c'est vraiment une lutte qui regroupe toutes ces questions. Et en ça, elle est... porteuse de ce qui pourrait nous sortir du bourbier dans lequel on n'arrête pas de patauger, de s'enferrer. Enfin, c'est quelque chose qui va vers l'avenir. Quoi. C'est vraiment une lutte qui nous Bien mènera sûr, vers l'avenir. Quoi.
C'est une lutte transversale qui fait converger les intérêts et qui, finalement, réduit les particularismes de chacun et qui, au contraire, les dépasse pour voir ce qu'il y a de commun dans les soucis, les préoccupations et les difficultés de chacune de ces catégories ou de la population et des intérêts des habitants de notre région. Donc c'est très très important, effectivement.
Et Brigitte, lors de ton séjour, est-ce que tu as pu avoir des échos, justement, auprès des Palestiniens que tu as rencontrés ?
Ah ben, la campagne BDS, c'était un des ateliers. Il y avait 3 ateliers à Biline. Il y avait un atelier donc sur la campagne BDS, un atelier sur le tribunal Russell et les questions juridiques.
Pour les crimes de guerre.
Pour les sanctions. Ouais.
Voilà. Et un atelier sur le réseau international. Mais donc la campagne BDS fait partie d'ailleurs des recommandations de la fin de la conférence de Biline. Enfin oui, c'était au centre. Il y avait bien sûr la résistance populaire pacifiste, mais aussi toute la question des sanctions, enfin de la campagne BDS, quoi. Elle était au centre de la conférence de Biline.
Bien. Je crois qu'on va passer la pause musicale. On va passer, parce qu'on a encore 2-3 questions qui seraient intéressantes d'aborder. Alors, outre tous les points que l'on vient d'évoquer, qu'est-ce que tu peux dire de ton voyage ? C'était ton premier séjour en
Palestine ? Oui, c'est la première fois, oui. Eh bien, la première chose, c'est que c'est bien pire que ce qu'on croit et que ce qu'on imagine quand on est ici, quoi. Et qu'on a beau écouter, voir des films, regarder, quand on arrive là-bas, c'est encore pire que ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a en face de nous des gens qui sont absolument pas... qui sont sacrément debout et sacrément ouverts et sacrément... digne, enfin, ça c'est aussi très fort, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de voir des gens résignés ou perdus ou coulés, enfin, c'est vraiment très vivant, extrêmement vivant. La troisième chose, c'est que les médias sont lamentables, racontent, enfin, ne traduisent absolument pas. Alors, ça va de la description à l'analyse politique, que les médias sont en dessous de tout sur la.
Les médias français, ce qu'on lit. Ici,
les médias français pour moi, je suis en France, mais je pense que c'est vrai dans tous les autres pays, ne sont vraiment, vraiment en dessous de tout. Voilà, c'est les grandes lignes comme ça de force. Et peut-être la dernière, c'est qu'il ne suffit pas d'aller là-bas. Il faut effectivement après trouver sa façon de continuer. Enfin, pas de faire quelque chose justement pour là-bas, mais de trouver le projet ou la lutte. Alors évidemment, il y a les luttes militantes en France. Et puis le fait de pouvoir informer et témoigner sur ce qui se passe vraiment là-bas. Mais puis peut-être après, je crois que ça donne l'énergie d'autres projets. Et ça, c'est aussi extraordinaire, quoi. C'est aussi très important.
Alors, dans les perspectives là, proches, hein, puisque José...
Oui, je voulais juste dire un petit point et revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, puisque c'est l'effet de la présentation, mais je veux dire qu'il faut bien voir qu'il n'y a pas d'un côté les luttes de la résistance populaire non violente, qui serait celle des villages contre le mur, et de l'autre côté, la campagne BDS. Parce que la campagne BDS, c'est aussi une campagne... d'action populaire non violente, de résistance populaire non violente. Les Palestiniens les précisent bien. Hein. Et de plus en plus, ils s'emparent eux-mêmes de la question du boycott. Et ce sont deux choses qui sont tout à fait complémentaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a l'ensemble de la résistance. Elle est composée, on peut dire, de trois composantes. Il y a d'une part la résistance telle que les Palestiniens de Gaza l'amènent, qui est une résistance armée. Nous n'avons pas, nous, à nous prononcer là-dessus. Ça, c'est l'affaire des Palestiniens. Il y a la résistance, effectivement, des villages et des comités populaires de résistance non-violente. Et puis, il y a la campagne BDS. Voilà. C'est l'ensemble de ces trois composantes-là qui constituent la résistance palestinienne. Et c'est vrai que le BDS et la résistance populaire non-violente sont vraiment très, très proches. Alors, est-ce que c'est la question qui est un peu posée, c'est est-ce que ces deux formes de résistance qui sont très proches, vont-elles trouver des débouchés, des représentants politiques ? C'est la question qui se pose aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va voir s'il y a un prolongement, puisque l'autorité palestinienne ne représente pas l'ensemble de ces trois résistances-là, puisqu'il en est exclu lui-même. Il ne représente pas non plus, même si Salem Fayyad essaie de récupérer en venant à la conférence de Biline. On pourra parler une autre fois de son projet économique. Mais le Hamas non plus ne représente pas l'ensemble des résistances, parce que c'est une forme qui est quand même surtout limitée à la situation particulière de Gaza. Et je crois que la question qui est posée, c'est celle-là aussi pour les Palestiniens et aussi pour le mouvement de solidarité. On attend de voir s'il y a un prolongement politique, une issue politique, cette forme de résistance qui pourrait représenter ce courant de façon politique et pas simplement dans les luttes quotidiennes de la résistance. C'est un point, une question.
On va aborder l'agenda. Hein, un agenda, il y a trois dates. Alors, jeudi 20 mai. Alors, jeudi 20 mai, José, à 19h à la CIMADE.
Oui, c'est le retour au compte-rendu de mission de la 161e mission à laquelle a participé Brigitte, mais également Valérie, et qui est aussi de Montpellier. Et il y aura Sylviane qui a participé, qui n'est pas très loin de Montpellier, qui va venir. Donc c'est un compte-rendu témoignage comme nous en faisons chaque fois au retour. C'est organisé par la CCIPPP, avec le soutien de la FPS, de la PLR, de Parasol, de l'UJFP et du comité BDS Montpellier. Il y aura donc un compte-rendu fait par ces trois participantes. Et également un buffet palestinien pour...
Donc
pour
19h, 28 rue du Faubourg Boutonnet.
À la CIMADE.
Alors maintenant, vendredi 21 mai, le concert Festival Arabesque, Brigitte.
Ben dans le cadre donc, du Festival Arabesque, le vendredi 21 mai à l'Amphithéâtre d'Eau, il y a un concert donc, à 20h30 avec Kamel El-Arachi et Marcel Khalif qui doit mettre en musique des poèmes de Mahmoud Darwish.
Et le lundi 31 mai, le Cinéma Diagonal présente un film Le Jardin de Jade avec un débat.
Donc c'est un film documentaire de Georgi Lazarevski avec un suivi d'un débat avec Michel Collomb qui est auteur du livre Israël parlons-en. Donc ce débat il est soutenu par les associations CCIPP, AFPS, UJFP, Le MAN, enfin, voilà.
Très bien.
Cinéma Diagonal, c'est 20h.
20h.
Cinéma Diagonal, non, lundi 19h45.
19h45.
Lundi 31 mai à 19h45.
Brigitte, José.
Merci.
Je vous remercie.
Merci.
Merci. À tous.